Et même après tout ça, Dieu avait annoncé sa fidélité. Vous connaissez en Jérémie 29, Dieu a annoncé que cet exil durera 70 ans. Et qu'à la fin de ce temps, lorsque le peuple revient vers lui, il les ramènera à Jérusalem. Et c'est ce qu'il a fait en Esdras et en Néhémie. Les murailles sont reconstruites, le peuple installé dans la ville. Et ayant écouté la parole, le peuple se souvient de leur histoire avec Dieu et il prie. Et puis le chapitre 10. Le chapitre 10 commence avec la phrase « À cause de tout cela ». Ce chapitre, chapitre 10, va nous montrer ce que le peuple fait à cause de tout ce que nous venons de voir. À cause de tout ce que Dieu a fait et à cause de la repentance que le peuple a expérimentée. Autrement dit, là, nous allons voir les résultats de la repentance. C'est ce que Jean-Baptiste va appeler le fruit de la repentance. Vous avez entendu cette phrase? C'est en Matthieu 3. C'est Jean-Baptiste qui parle du fruit de la repentance. Produisez le fruit de la repentance, il dit. Alors, ça pose tout de suite une question. Quel est le fruit de la repentance dans votre vie? C'est la question essentielle pour chacun d'entre nous ce matin. Je le pose tout de suite, comme ça vous pouvez partir s'il faut. Je plaisante, merci de rester. Mais quel est le fruit de la repentance dans notre vie? Si vous avez mis votre foi en Christ, ça implique la repentance. Quand nous disons « mettre ta foi en Christ », ça implique la repentance. Parce qu'on ne peut pas venir à un Dieu saint sans reconnaître son péché, sans reconnaître notre besoin. Mais si vous êtes repenti, quel en est le fruit? S'il n'y a pas de fruit, il faut se poser la question, me suis-je vraiment repenti? C'est un peu comme si on vous vend un arbre en vous disant que c'est un pommier, mais chaque automne, il n'y a aucune pomme. Tôt ou tard, il faut se poser la question, pourquoi n'y a-t-il aucun fruit? Est-ce vraiment un pommier? Alors, l'absence apparente du fruit dans la vie du croyant peut être une question compliquée, et nous n'allons pas entrer dans les détails ce matin. Mais nous ne parlons pas d'être parfait, nous l'avons chanté, personne n'est parfait. Nous avons lu, même l'apôtre Paul, ne se prend pas pour être parfait. Aucun croyant n'est pas parfait. Aucun croyant n'est parfait. Mais voici l'essentiel. Si, en écoutant la parole de Dieu, comme le peuple fait ici en Néhémie, et si, après avoir compris la grâce de Dieu, s'il n'y a rien en nous qui dit, alors, à cause de tout cela, voici comment je vais répondre. À cause de tout cela, voici l'engagement que je vais faire. À cause de tout cela, voilà ce qui va changer dans ma vie. S'il n'y a rien en nous qui dit ça, il y a quelque chose qui ne va pas. La vraie repentance produit du fruit, tôt ou tard. Et c'est ce que nous allons voir ici en Néhémie. Nous allons lire ce que ça fait pour le peuple en Néhémie 10. Verset 1. À cause de tout ça, nous avons conclu un pacte que nous avons mis par écrit, et nos chefs, nos lévites et nos prêtres y ont apposé leur empreinte. Et puis, il nomme les représentants du peuple qui se sont associés à ce pacte. La liste des noms va jusqu'au verset 28. Je ne vais pas les lire, mais au verset 29, nous avons le résumé des gens représentés par ces noms. Et notons bien de qui il s'agit. Verset 29, le reste du peuple, les prêtres, les Lévites, les portiers, les musiciens, les serviteurs du temple, et tous ceux qui s'étaient séparés des populations installées dans la région pour suivre la loi de Dieu, y compris leurs femmes, leurs fils et leurs filles. Tous ceux qui étaient aptes à comprendre ont apporté leur soutien à leurs frères les plus influents. Tout le peuple, vieux, jeunes, hommes, femmes, fils, filles, tous ceux qui étaient aptes à comprendre étaient concernés. Si vous êtes là ce matin, et si vous comprenez les mots que je prononce ou que vous lisez dans la parole, vous êtes concernés. Peu importe qui vous êtes, la parole, le message de l'évangile vous concerne, pas d'excuses. Le fruit de la repentance, c'est pour tout le monde. Et puis la suite du verset, qui explique ce que toutes ces personnes ont fait. Ils se sont engagés, sous peine de malédiction et avec serment, à marcher, suivant la loi de Dieu, donnée par l'intermédiaire de son serviteur Moïse, à respecter et à mettre en pratique tous les commandements, les règles et les prescriptions de l'Éternel, notre Seigneur. C'est-à-dire, ils vont appliquer la parole. Et puis, le reste du chapitre décrit ce que ça implique pour le peuple d'Israël. Nous allons lire donc le reste du chapitre. Et puis, on parlera de comment ça s'applique dans nos vies. Verset 31. Nous nous engageons à ne pas donner nos filles en mariage au peuple qui habite le pays et à ne pas prendre leurs filles comme femmes pour nos fils, à ne leur acheter le jour du sabbat et les jours de fête aucune des marchandises ou des céréales qu'ils amèneraient le jour du sabbat pour les vendre, à respecter le répit de la septième année et à renoncer au paiement de toute dette. Nous nous imposons aussi des commandements par lesquels nous nous obligeons à donner 4 drachmes d'argent par an pour le service de la maison de notre Dieu, pour les pains consacrés, pour l'offrande perpétuelle, pour l'holocauste perpétuel des sabbats, les débuts de mois et des fêtes, pour les éléments consacrés, pour les sacrifices d'expiation en faveur d'Israël et pour toute activité de la maison de notre Dieu. Nous avons tiré au sort entre prêtres, lévites et membres du peuple pour déterminer quelle famille devait apporter et à quel moment fixe de chaque année l'offrande de bois destinée à la maison de notre Dieu. Ce bois est celui qui doit brûler sur l'autel de l'Éternel, notre Dieu, conformément à ce qui est écrit dans la loi. Nous nous engageons à amener chaque année à la maison de l'Éternel les premiers produits de notre sol et les premiers fruits de tous les arbres, ainsi que les premiers-nés de nos filles, de nos fils et de nos animaux, conformément à ce qui est écrit dans la loi, à amener à la maison de notre Dieu aux prêtres qui y font le service les premiers-nés de notre petit et de notre gros bétail. Nous apporterons aux prêtres, en les déposant dans les salles de la maison de notre Dieu, notre première fournée, nos offrandes, des fruits de tous les arbres, du vin nouveau et de l'huile, et nous donnerons la dîme des produits de notre sol aux Lévites. Ces derniers devront la prendre eux-mêmes dans toutes les villes situées sur les terres que nous cultivons. Le prêtre en service issu d'Aaron devra accompagner les Lévites quand ils prélèveront la dîme, et ceux qui devront apporter la dîme de cette dîme à la maison de notre Dieu dans les salles de la maison du trésor. En effet, c'est dans ces salles que les Israélites et les Lévites doivent apporter les prélèvements de blé, de vin nouveau et d'huile. C'est là que se trouvent les ustensiles du sanctuaire et que se tiennent les prêtres qui font le service, les portiers et les musiciens. Nous n'abandonnerons pas la maison de notre Dieu. Nous n'abandonnerons pas la maison de notre Dieu. Amen. C'est-à-dire, le peuple s'engage à ne pas laisser tomber la mission que Dieu lui a donnée. Le fruit de la repentance, c'est de s'engager. Le peuple s'engage à ne pas laisser tomber la mission de Dieu. C'est-à-dire de manifester la présence de Dieu sur cette terre en tant que son image, en tant que son représentant. Et voilà donc les grandes lignes de ce que ça voulait dire pour le peuple. Je ne sais pas si vous avez pu suivre parce que c'est un peu compliqué. Ça, il s'agit de la loi de Moïse C'est compliqué, mais voici les grandes lignes. Le peuple s'engage à ne pas se marier avec les étrangers. Il s'engage à respecter le sabbat. Il s'engage à respecter les années de jubilé. Il s'engage à assurer le service dans le temple et y pouvoir financièrement. C'est les grandes lignes de ce qu'on vient de lire. Et sans étudier chacun de ces engagements de la part du peuple d'Israël en détail, c'est déjà un résumé très intéressant de ce qui est important dans la vie du peuple de Dieu. La question de se marier avec les étrangers, c'est une question de pureté. Non pas pureté ethnique, mais spirituelle. Si un étranger acceptait le Seigneur, on avait parfaitement le droit de se marier avec lui. Comme Boaz et Ruth, par exemple. Les ancêtres de Jésus, d'ailleurs. Mais comme Didier nous a dit la semaine dernière, il faut faire attention aux alliances qu'on fait et avec qui. Donc, le premier principe, c'est la pureté spirituelle. Puis le sabbat signifie plusieurs choses, mais à la base, c'était surtout une question de confiance en Dieu. Que Dieu pourvoirait et que c'était une façon aussi de proclamer cette confiance aux nations. Puis il y avait les années de jubilé. C'était une forme de justice sociale pour les moins riches. Et finalement, le service et les finances pour le temple étaient pour servir Dieu et l'adorer, et aussi pour proclamer sa gloire aux nations. Voilà donc un résumé des engagements du peuple dans ce chapitre, des engagements qu'ils ont tirés de la parole, et des engagements qui sont une bonne image de ce que nous, l'Église, devrions être nous aussi, en tant que peuple de Dieu, dans nos vies personnelles et dans notre vie d'Église. Où sommes-nous avec ces choses? Où es-tu avec la pureté spirituelle, avec la justice, avec la foi et le service? Où sommes-nous? Mais attention, c'est facile de dire « oui, je suis d'accord avec tout ça ». Oui, je suis d'accord. Mais l'exemple que nous avons dans ce chapitre nous rappelle qu'un vrai engagement, un engagement qui est le produit d'une vraie repentance, ce genre d'engagement se concrétise. La vraie foi en Dieu n'est pas une philosophie abstraite. C'est une façon de vivre grâce à notre relation avec Dieu. Elle consiste en des applications concrètes et précises de la parole. Et ces applications exigent un engagement de notre part. Nous allons donc regarder quelques exemples de ce que le peuple fait dans ce chapitre. Et pour chacun, nous verrons un aspect important de ce que c'est de mettre la parole en pratique. D'abord donc, nous voyons que le peuple s'engage à trouver des moyens concrets pour mettre la parole en pratique. Et c'est l'aspect concret qui est important. Si on regarde par exemple verset 35, on voit l'offrande des bois. Vous connaissez l'offrande des bois dans la loi de Moïse? Non, c'est une question piège, parce que ce n'est pas dans la loi de Moïse. Mais c'est très précis ce qu'il dit ici. Nous avons tiré au sort entre prêtres, lévites et membres du peuple pour déterminer quelle famille devait apporter et à quel moment fixe de chaque année l'offrande de bois destinée à la maison de notre Dieu. Déjà, nous voyons le principe biblique du partage de la mission de Dieu. Le peuple tire au sort afin que tous les membres de la communauté participent à la mission à la tâche, y compris les plus influents comme les prêtres et les lévites. Petite application concrète. Si nous faisons le nettoyage à tour de rôle dans le nouveau local, les anciens vont le faire à tour de rôle comme les autres. Mais on va pas laisser les anciens le faire seul non plus. On va le partager. Vous voyez l'idée, cette idée de vivre la parole concrètement s'applique à chacun d'entre nous. Ce qui est particulièrement intéressant dans cet exemple, je trouve, c'est qu'à la fin du verset, nous lisons qu'ils ont fait tout cela conformément à ce qui est écrit dans la loi. Et c'est très important que nos engagements soient basés sur la parole. Mais, comme j'ai déjà dit, la loi ne donne pas tous ces détails. La loi dit simplement que le feu sur l'autel doit brûler jour et nuit. C'est ce que la loi dit. Le fait de pourvoir à ce feu en amenant des offrandes de bois et le fait de partager ces offrandes dans toute la communauté, tout ça, c'est la façon d'accomplir cet aspect de la parole que le peuple trouve dans cette situation. Si la parole exige toujours une situation, une application, elle ne précise pas toujours la forme exacte que l'application doit prendre. Nous, nous devons nous demander comment puis-je appliquer cette parole dans ma vie de tous les jours. Comme Jean-Serge nous a montré il y a quelques semaines, la parole dit qu'il faut prier, mais il ne prescrit pas une façon de le faire dans chaque situation. On peut le faire debout, assis, même allongé. À nous donc de choisir l'application précise selon la situation. Nous avons du travail à faire, une question à nous poser. Et c'est important de pouvoir reconnaître la différence entre la parole elle-même et une façon particulière de l'appliquer. Sinon, c'est trop facile de confondre notre façon de faire avec la parole elle-même. Une personne, par exemple, va peut-être s'engager à avoir un culte personnel chaque jour à 6 heures du matin. Je pense avoir compris qu'il y a quelqu'un dans l'assemblée qui se lève à 4 heures du matin pour le faire. Je vous félicite. Ça peut être une application de la parole. Mais une autre va peut-être trouver que ça marche mieux après que les enfants partent pour l'école. Et ça va. L'essentiel est qu'on trouve le temps pour prier et étudier la Bible régulièrement. Et qu'on s'engage à le faire. Pour les Israélites, ici, si un jour ils trouvent que les offrandes de bois ne sont plus la meilleure façon de faire, ils peuvent trouver un autre moyen d'assurer le feu sur l'autel. Parce que le moyen n'est pas précisé dans la loi. L'essentiel est que la loi, soit respectée. Et qu'il y ait un plan concret pour la mettre en pratique. Parce que si on n'a pas de plan, alors c'est trop facile de laisser tomber, n'est-ce pas? C'est un autre point d'application dans ce passage et en fait dans tout ce livre. Nous l'avons déjà vu dans cette série. Il nous faut une stratégie, c'est-à-dire un plan de bataille pour mettre en pratique notre foi. Si vous n'avez pas un plan pour lire la Bible, c'est très possible que vous n'allez pas lire. Si vous n'avez pas un plan pour prier, c'est très possible que vous n'allez pas prier. Mais il ne faut pas confondre notre stratégie avec la parole. Dans ce passage, la distinction est claire. C'est très intéressant. Le peuple dit, par exemple, au verset 33, « Nous nous imposons aussi des commandements par lesquels nous nous obligeons à donner, et ainsi de suite. » C'est une très bonne chose pour eux de s'obliger à ça, comme nous verrons par la suite. Mais ils restent conscients que c'est eux qui s'obligent à le faire, et non pas Dieu. Alors, prenons un autre exemple. L'exemple des mariages aux étrangers. En Deutéronome 7, 3. Vous savez ce qui est en Deutéronome 7, 3? Probablement pas. Moi, j'ai dû chercher. Mais juste avant que le peuple entre dans la terre promise pour la première fois, il est écrit « Tu ne contracteras pas de mariage avec ces peuples, tu ne donneras pas tes filles en mariage à leurs fils et tu ne prendras pas leurs filles comme femmes pour tes fils. Tu ne contracteras pas de mariage avec ces peuples. » Alors, qui sont ces peuples dans ce passage? Ce sont les peuples qui habitent ce territoire à l'époque. Et quelques versets plus tôt, il y a une liste même, les Cananéens par exemple, etc. Mais à l'époque de Néhémie, ces peuples-là n'existent plus. Parce que c'est presque 1000 ans après l'écriture de la loi. Et donc les Perses, par exemple, les Perses ne sont pas mentionnés sur cette liste. Et donc on peut bien imaginer un jeune Israélite qui écoute la lecture de la parole, et qui se dit, pas de souci alors. je vais sortir avec ma copine perse ce soir. Parce que les Perses ne sont pas sur la liste d'ethnies défendues. En Deutéronome, je l'ai bien écouté. Et les Perses ne sont pas mentionnés, donc ça va. Et ça peut peut-être sembler un peu bête comme argument. Mais je trouve que nous avons souvent cette tendance lorsque nous appliquons la parole, n'est-ce pas? C'est-à-dire, nous cherchons à faire le minimum. Nous cherchons à la lire d'une façon qui nous permet de faire ce que nous voulons faire, malgré tout. Même si le sens de ce verset est clair, c'est pas les ethnies particulières qui comptent, c'est le fait de s'allier avec un non-croyant. Mais nous, nous cherchons, quand nous lisons la parole, très souvent, une sorte de faille dans le système, ou un vide juridique, comme on dit. J'aime bien le mot anglais, loophole. On cherche un vide où nous pouvons faire ce que nous voulons, malgré tout. Comme si l'idée était de faire juste ce qu'il faut pour rester du bon côté de la ligne. Et avec cette attitude-là, je me dis, je ne vais pas mentir à ma collègue, mais je vais quand même le laisser croire un mensonge, si ça facilite ma vie. Ou je ne vais pas être méchant avec mon voisin, mais je ne vais pas être trop gentil non plus. C'est aussi comme ça qu'on justifie toutes sortes de relations malsaines, comme l'homme qui a une relation émotionnellement intime avec une femme qui n'est pas son épouse et qui dit « mais je ne l'ai pas touchée, donc pas d'infidélité ». Ok, c'est bien que tu ne l'aies pas touchée, mais tu violes quand même le principe de ton mariage. Tu es un avec ta femme. Si tu l'aimes sincèrement et si tu aimes Dieu sincèrement, tu ne vas pas chercher une façon de te justifier en appliquant la lettre de la loi tout en oubliant son sens profond, tout en oubliant son esprit. Ignorer le sens de la parole comme ça, c'est comme l'enfant qui agace sa sœur dans la voiture en la tapant. C'est juste un exemple. Hein? La petite fille dans la voiture qui tape sa sœur, et du devant, le parent lui dit d'arrêter. Et donc l'enfant arrête de taper. Mais il met le doigt juste au 5 cm du nez de l'autre. Et l'autre crie « Maman !» Le premier dit « Maman, j'ai rien fait, je ne l'ai pas touché. » Sommes-nous toujours enfants dans la foi, comme ça? Ou nous crions « Dieu, j'ai rien fait. » De sorte que nous lisons la parole pour trouver le minimum qu'il faut faire pour ne pas agacer Dieu, comme s'il était un parent devant. Ou avons-nous appris à lire la parole pour connaître notre Père et comprendre sa volonté? C'est pas la même chose. Dans ce passage, le peuple semble avoir appris ce dernier. Ils lisent la parole pour comprendre leur Père, pour intégrer ce qui lui est important et la mettre en pratique. Et ce que le peuple trouve, il trouve que ce qui était vraiment important à Dieu, c'est que sa présence puisse demeurer parmi eux pour rayonner au monde. Voilà pourquoi il y a tellement d'accent sur le temple dans ce passage. Prenons un autre exemple, encore les offrandes. Le montant d'argent qui est mentionné ici au verset 33, 4 drachmes, c'est en fait plus que ce qui est ordonné dans la loi. On ne sait pas exactement pourquoi le peuple a décidé de donner plus, mais nous avons vu leur attitude, n'est-ce pas, dans le dernier verset, « Nous n'abandonnerons pas la maison de Dieu. » C'est donc très probable que le peuple a simplement calculé ce qu'il fallait pour que le temple fonctionne et ils se sont engagés à donner chaque année, à donner ce montant chaque année. Je comprends quand on me demande, mais comment faut-il donner dans les offrandes? Je comprends la question. Mais si on cherche juste le minimum, quelle est notre attitude vraiment? Ici, le peuple voulait tellement voir Dieu glorifié. Ils avaient horreur de l'idée que le temple tombe encore en ruine. Et donc, ils ne se sont même pas arrêtés au minimum de ce que la loi avait prescrit. Ils ne sont pas arrêtés avant que la mission de Dieu soit accomplie. C'est pas juste qu'il évite des vides juridiques. Vous voyez? C'est qu'il se pose la question, comment devrions-nous agir dans cette situation pour que la mission de Dieu soit entièrement accomplie dans notre vie? Dans ce sens-là, le peuple n'a même pas besoin de la loi pour les contraindre, parce qu'ils ont vu son but. Et ils poursuivent volontairement, librement. Et c'est intéressant de noter que le peuple arrive à faire ça après leur exil. C'est pas anodin. C'est comme si cette expérience d'exil a produit un changement dans le cœur du peuple. Si vous avez jamais expérimenté un exil spirituel, un désert dans votre vie spirituelle, vous savez que des fois, c'est exactement ça qu'il faut pour avancer avec Dieu. Parce qu'après, nous nous rendons compte de ce qui est important. Et parfois, après, on se rend compte qu'on n'a même pas besoin de la loi parce qu'on est tellement focalisé sur Dieu. Et en fait, c'est exactement ce que Dieu a prévu pour son peuple. Avant que le peuple soit parti en exil, Dieu n'a pas juste annoncé leur retour en Jérémie. Ça, c'est en Jérémie 29. En Jérémie 31, voici ce qu'il dit. Jérémie 31, verset 31. Voici que les jours viennent, déclare l'Éternel, où je conclurai avec la communauté d'Israël et la communauté de Juda une alliance nouvelle. Elle ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leurs ancêtres le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte. Eux, ils ont violé mon alliance, alors que moi, j'étais leur maître, déclare l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la communauté d'Israël après ces jours-là, déclare l'Éternel. Je mettrai ma loi à l'intérieur d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu. Dieu a promis qu'un jour, son peuple n'aurait plus besoin de la loi de Moïse parce qu'ils auraient quelque chose à l'intérieur qui leur permettrait de le suivre. Et ici, dans ce passage en Néhémie, nous avons l'impression que ça commence un peu, n'est-ce pas? Il est possible même que le peuple lui-même se souvienne de cette prophétie et qu'il cherche à commencer cette nouvelle alliance par tous ces engagements qu'il entreprend. Il veut dépasser les exigences de la loi. Il veut avoir la loi de Dieu gravée sur le cœur. Mais malheureusement, pour eux, ce n'est pas encore le moment pour la nouvelle alliance. Il y a encore quelque chose qui manque. C'est Jésus. Et donc, la prochaine fois que nous verrons ce peuple dans cette histoire, vous savez c'est quand? C'est 400 ans après, au début du Nouveau Testament. Et nous allons les trouver retombés, beaucoup d'entre eux en tout cas, dans un légalisme qui ne prend pas en compte le but de la loi et qui cherche donc à faire le minimum tout en rajoutant règle après règle. C'est ce qu'on voit chez les pharisiens dans les évangiles. Et pendant tout son ministère, Jésus va enseigner et vivre d'une façon qui reprend les pharisiens en montrant le vrai but de la loi. Et c'est quoi? C'est l'amour de Dieu et l'amour de son prochain. Et Jésus va mettre en pratique cet amour concrètement chaque jour de sa vie, même jusqu'à la mort. Mais sa mort n'est pas la fin, ni même sa résurrection. Parce que qu'est-ce qui suit la résurrection de Jésus? C'est la Pentecôte. Et là, Dieu envoie ce qui manquait vraiment en Néhémie. Il envoie le Saint-Esprit. Non pas pour abolir la loi, mais pour le dépasser. Pour tous ceux qui croient en lui, l'Esprit transforme de l'intérieur. L'Esprit nous transforme de l'intérieur. Et maintenant, donc, lorsque nous lisons la parole, c'est le Saint-Esprit qui nous aide à la comprendre et à la mettre en pratique. C'est l'Esprit qui fait que cette parole soit gravée sur nos cœurs. Et c'est le Saint-Esprit qui nous donne la force de tenir nos engagements envers Dieu. Voilà pourquoi nous chantons vous en rendez compte, le don que nous avons, que le peuple en Néhémie n'avait pas. Il voulait suivre Dieu, mais il n'avait pas ce qu'il fallait. Il n'avait pas le Saint-Esprit. Il n'avait pas la résurrection de Christ, la vie de sa résurrection en eux. Si vous êtes baptisé, vous vous êtes engagé avec Dieu devant les hommes, comme le peuple en Néhémie. Nous qui sommes baptisés, nous avons déclaré publiquement que notre repentance va produire du fruit dans notre vie. Et encore, c'est pour ça que nous ne baptisons pas de petits enfants dans cette assemblée. Parce que justement, comme ce chapitre dit, ils ne sont pas aptes à comprendre. Mais nous qui le sommes, pour nous, le baptême, c'est l'expression de notre engagement avec Dieu. L'expression qui est la base de tous les autres engagements. Car il nous est donné explicitement par Jésus. Et il reprend l'image de la mort et de la résurrection de Jésus. Et c'est la puissance de la résurrection qui sera notre force. C'est ça qui manquait en Néhémie. Si tu es baptisé, n'oublie jamais que c'est cette nouvelle vie de la résurrection qui te donne la force pour tenir tes engagements devant Dieu. Et si tu n'es pas baptisé, la simple question que je te pose, c'est pourquoi? Pourquoi? Peut-être que tu ne crois pas que Jésus est Dieu, qu'il est mort et ressuscité pour toi. D'accord, dans ce cas-là, tu n'es pas prêt pour cet engagement. Mais tu peux déjà prier que ce Dieu se révèle à toi. Parce qu'il est là et il t'écoute. Et si tu crois déjà, je reviens à la question. Qu'est-ce qui te retient? C'est possible que ce soit la crainte que tu ne puisses pas tenir cet engagement. Et oui, c'est sûr que tu ne peux pas. Tu vas tomber. À un certain moment, tu vas faire des erreurs. Pose la question à n'importe qui s'est fait baptiser récemment. Leur vie n'a pas été parfaite depuis le baptême. Je vous l'assure. Mais quand tu acceptes le pardon et la grâce de Jésus, c'est lui qui s'engage à t'aider par la puissance de son esprit en toi. Et donc le baptême, c'est l'expression de ton désir de prendre un pas d'engagement. Avec foi que c'est Dieu qui te permettra de le mener à bien. Il ne faut pas te retenir de cet engagement parce que tu as peur de ne pas être à la hauteur. Personne n'est à la hauteur. Personne sauf Jésus. Mais si ce n'est pas ça qui te retient, c'est également possible que ce soit tout simplement une forme de résistance ou de rébellion en toi qui t'empêche de prendre cet engagement. Et ça, ça vient tout simplement de l'ennemi qui veut t'empêcher de vivre la voie d'obéissance à laquelle Dieu t'appelle. C'est la voix de l'ennemi que tu entends. La voix de Dieu t'invite à venir vers lui dans l'humilité et la confiance que ce à quoi il t'appelle est la meilleure chose pour toi. Il n'y a rien de plus beau, rien de plus logique que de s'engager envers un Dieu qui s'est déjà engagé envers toi. Il a déjà déversé sa grâce dans ta vie. Il s'est déjà montré fidèle à toi. Nous avons un culte de baptême dans quelques semaines. Qu'est-ce que tu attends? C'est l'un des engagements que nous prenons dans la vie chrétienne. C'est le premier que nous faisons publiquement. Et pour nous tous, la lecture de la parole ne peut que nous amener à la repentance. Et la repentance ne peut que nous amener à mettre en pratique la parole de Dieu concrètement dans notre vie. Nous avons cité plusieurs exemples ce matin, plusieurs façons dont Dieu nous demande de vivre une vie d'intégrité, une vie qui dépasse le minimum afin de servir Dieu de tout cœur. Et certaines de ces choses peuvent être difficiles à accepter et elles demandent un vrai engagement de confiance envers Dieu. Je vais prier maintenant que le Saint-Esprit nous donne la force de faire ce qu'il y a à faire. Car en fin de compte, tout ce qu'il demande, c'est pour notre bien. Tout ce qu'il demande, c'est pour notre bien et le bien de ce monde.